VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est midi à Kinshasa. La police zimbabwéenne interdit pour un mois dans les rues de la capitale Harare les nouvelles manifestations hostiles au président Robert Mugabe prévues par l'opposition, a annoncé aujourd'hui le directeur général de la police. Quelques heures avant l'annonce de cette interdiction, une coalition de partis d'opposition amenée par le mouvement pour le changement démocratique MDC avait annoncé des manifestations samedi dans tout le pays. Depuis plusieurs semaines, le Zimbabwe est agi par une fronde populaire contre le régime du président Mugabe qui dirige le pays depuis 1980. Dialogue politique en République démocratique du Congo, l'opposition suspend sa participation aux travaux en commission. Dans sa déclaration lundi à Kinshasa, le co-modérateur Vital Kamerhe a annoncé que sa délégation ne reviendra au dialogue que si la priorité est donnée à la présidentielle, comme le veut la résolution 2277 de l'ONU. En réaction, la majorité présidentielle accuse l'opposition de faire monter les enchères. Selon le sénateur Cheo Kitungu, le chef de délégation du camp présidentiel au dialogue, sa famille politique maintient sa position de commencer par les élections locales pour terminer par la présidentielle. On l'écoute.
Notre pays a opté pour le régionalisme constitutionnel et par conséquent, la décentralisation a été inscrite dans la Constitution et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a dernièrement étendu l'extension de cette décentralisation. On est aujourd'hui à 25 provinces et la ville de Kinshasa. Alors, ces provinces ne doivent pas continuer à fonctionner sous forme de nomination des gouvernants. Il faudrait que les élections aient lieu. C'est pour ça que nous accordons une grande importance aux élections locales. Et en partant aussi de l'idée que toutes les élections se valent. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que l'élection présidentielle est plus importante que l'élection locale dans le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Ça, c'est la position de la majorité. Mais maintenant, pour l'opposition estime qu'il faut commencer par les présidentielles et c'est le point d'achoppement avec l'opposition. Je n'ai pas particulièrement participé à la commission électorale, mais on a appris qu'ils ont suspendu de participation. Mais je crois qu'à mon avis, c'est une tactique de négociation.
Le sénateur Che Okitundu au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Suite aux violences post-électorales au Gabon ayant fait plusieurs morts et de nombreux blessés, la société civile, par la voix du collectif Tournons la page, demande une enquête internationale. Écoutons le coordonnateur de cette ONG, Marc Ona Essangui.
Nous avons des parents qui viennent vers nous et qui sont à la recherche de leurs enfants. Beaucoup ont retrouvé leurs parents dans les maisons de pompes funèbres. D'autres sont toujours à la recherche et d'autres ont été emprisonnés. Donc, les chiffres avancés par le gouvernement sont excessivement en deçà de la réalité. Sur toutes les endroits du territoire, nous avoisinons la centaine de morts. Le soir même de l'assaut, les informations que nous avons eues, des témoignages, des éléments à l'intérieur du pouvoir et qui nous ont certifié qu'à l'infirmerie de la garde républicaine, 17 corps ont été déposés là-bas. 17 corps ont été déposés. Or, c'est la garde républicaine qui avait lancé l'assaut. À partir de cet instant, tous ces corps ont été déposés dans une morgue Kasebga. Et aujourd'hui, les parents sont en train, effectivement, d'aller retrouver leurs morts à Kasebga. Ça veut tout simplement dire que le nombre de morts soit annoncé par le pouvoir pendant l'assaut, ce nombre n'est pas conforme à la réalité.
Marc Ona Essangui de la société civile gabonaise. Libye, les États-Unis et 5 de leurs principaux alliés en Europe ont condamné ensemble lundi la prise de contrôle d'un troisième terminal pétrolier par des autorités rivales du gouvernement reconnu par l'ONU basé dans l'est du pays. Washington et ses alliés européens insistent sur le fait que le pétrole appartient au peuple libyen et doit par conséquent être administré par le gouvernement d'union nationale soutenu par l'ONU qui lui est basé à Tripoli. La trêve en Syrie, c'est notre magazine, présenté comme la dernière chance pour sortir le pays du chaos, était globalement respectée ce mardi. Les habitants dans plusieurs villes se félicitant d'avoir connu leur première nuit depuis des mois. L'arrêt des combats devra ainsi permettre l'envoi d'aide humanitaire urgente aux centaines de milliers de personnes vivant dans des zones assiégées, notamment la partie rebelle d'Alep. Claire Morin-Gibou a joint Thomas Pirette, auteur de plusieurs ouvrages sur la Syrie, pour lui demander son sentiment sur ce nouveau cessez-le-feu.
beaucoup de scepticisme, pour être honnête, pour deux raisons. La première, c'est que le cessez-le-feu, comme le précédent proclamé en février, ne prévoit pas de mécanisme clair pour faire observer donc le cessez-le-feu par les parties en présence, et particulièrement par le régime syrien, qui, on s'en souvient, en février dernier, n'avait jamais mis en œuvre le cessez-le-feu dans certaines régions. Donc il avait observé dans certaines provinces, mais dans d'autres, comme à Damas ou à Latakia, c'était resté lettre morte. Et il n'y avait aucun mécanisme prévu dans cet accord pour le faire respecter. On n'a pas l'impression que les choses soient différentes cette fois-ci, donc c'est une première raison d'être sceptique. La deuxième, c'est dans la conception plus globale de l'accord, alors qu'il n'est pas qu'un accord de cessez-le-feu, puisqu'il est aussi question d'opérations militaires communes russo-américaines, non seulement contre l'État islamique, mais aussi contre le front Fath al-Sham, ex-front al-Nusra, donc la branche d'Al-Qaïda en Syrie, qui est une des principales factions combattant le régime syrien. Et alors là, on a un problème qui est qu'on demande dans l'accord aux autres groupes rebelles de se retirer des zones où combat le Fath al-Sham, et avec ce risque qui est que si ces groupes rebelles se séparent de cette organisation, que cette dernière est bombardée par les Américains et les Russes et qu'elle est affaiblie, cela crée un vide qui serait assez certainement rempli par les forces du régime. Donc on demanderait finalement aux rebelles d'abandonner de nouveaux territoires au régime alors que celui-ci est plutôt sur l'offensive actuellement.
Sans oublier la fracassante sortie médiatique de Bachar el-Assad qui dit qu'il veut récupérer la majorité du territoire.
Effectivement, donc évidemment le signe qui est envoyé ici n'est pas très positif. Et encore une fois, il n'y a aucun mécanisme qui soit prévu pour, je dirais, mettre un frein à ses ambitions. Alors, a priori, il semblerait qu'il y ait une clause dans l'accord qui affirme que le régime syrien ne doit pas exploiter l'affaiblissement de Fath al-Sham pour reprendre des territoires. Le problème, c'est qu'il semble qu'il n'y ait aucun mécanisme tangible pour empêcher ça. Donc finalement, la bonne application de l'accord repose, un, sur la bonne volonté russe de limiter les ambitions de leur allié syrien. On a quand même le droit d'être extrêmement sceptique par rapport à ça. Et d'autre part, ça pourrait reposer sur des lignes rouges américaines, mais on en connaît la crédibilité. Et les Américains ne semblent pas décider à, je dirais, à taper du poing sur la table ou à sanctionner le régime syrien en cas de non-observation de l'accord. Donc tout cela fait qu'on peut être extrêmement sceptique par rapport à cet accord de cessez-le-feu.
Thomas Pierret, maître de conférence à l'université d'Édimbourg et spécialiste de la Syrie. Je vous rappelle que le conflit en Syrie a fait plus de 290 000 morts depuis mars 2011 et poussé à la fuite des millions de personnes. La Turquie a officiellement demandé aux États-Unis d'arrêter le prédicateur en exil, Fethullah Gulen, qu'elle accuse d'avoir organisé le putsch manqué du 15 juillet, a rapporté aujourd'hui la chaîne de télévision Turk NTV. Fethullah Gulen, qui vit en Pennsylvanie, a démenti être lié à la tentative de coup d'État. Le chef de l'État turc, Recep Tayyip Erdogan, a évoqué la question Gulen avec son homologue américain Barack Obama lors du sommet du G20 ce mois en Chine. Un haut responsable de l'administration américaine a déclaré que Barack Obama avait expliqué alors à Erdogan que la décision se jouerait au niveau du droit et non pas au niveau politique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, Hillary Clinton, soignée pour une pneumonie, reprendra la campagne présidentielle cette semaine. Et Barack Obama va intervenir ce mardi lors d'un meeting de soutien à la candidate démocrate à Philadelphie. Le candidat républicain Donald Trump, lui, s'est bien gardé d'attaquer Mme Clinton concernant sa santé, préférant se concentrer sur les propos controversés tenus la semaine dernière par la candidate démocrate Timothée Donangmaye.
Mme Hillary Clinton avait qualifié vendredi la moitié des partisans de Donald Trump de pitoyables, de racistes, sexistes, homophobes, xénophobes, islamophobes. Lors d'une halte électorale lundi à Baltimore, dans l'État du Maryland, le candidat républicain a dit être profondément choqué d'entendre son adversaire attaquer, calomnier et dénigrer ses partisans.
I was thus deeply shocked and alarmed this Friday to hear my opponent attack, slander, smear, demean these wonderful, amazing people.
Il a accusé Mme Clinton de railler et de mépriser les Américains qui travaillent dur. La décision du candidat républicain de se concentrer sur cette controverse plutôt que sur le problème de santé de Mme Clinton montre, selon les analystes, qu'après plus d'une année de campagne en roue libre, l'équipe Trump est en train d'amener son candidat à plus de discipline. Autre preuve de cette discipline fraîchement acquise, dimanche, le camp de Trump s'est imposé une journée de silence, sans interview ou commentaire, pour marquer l'anniversaire des attaques terroristes du 11 septembre 2001, ici aux États-Unis.
Merci Timothée. L'ex-président du Congrès des députés brésilien, Eduardo Cunha, à l'origine de la procédure de destitution controversée de l'ex-président Dilma Rousseff, a été destitué par ses collègues parlementaires. Une enquête judiciaire a permis de découvrir qu'il était le titulaire d'au moins un compte bancaire secret en Suisse sur lequel il avait transité environ 5 millions de dollars d'origine suspecte. Dilma Rousseff accuse M. Cunha et son ancien vice-président Michel Temer d'avoir orchestré un coup d'État parlementaire. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est avec Nani Talani, dans 50 minutes exactement.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Oh oh.